C'est le moment de la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, la suite. Évangile selon Luc, chapitre 10. On va lire les 20 premiers versets du chapitre. Et avant de lire la parole, je veux prier pour demander au Seigneur de nous conduire par son esprit, parce qu'on a besoin de l'esprit pour être éclairé par cette parole. Seigneur, c'est ton esprit qui nous fait voir, qui nous fait comprendre et sentir, goûter ta gloire. C'est ton esprit qui nous émerveille de qui tu es. Seigneur, que ton esprit souffle sur cette assemblée, souffle sur moi, et que ta parole, Seigneur, rayonne au milieu de nous. Amen. Luc 10. Moi, je vous fais un petit peu de contexte d'abord. Donc, Jésus a vécu il a grandi à Nazareth, et puis quand il a eu 30 ans, il a commencé son ministère public. Il a commencé vraiment là-haut dans la Galilée, tout au nord du pays, là où il y a que pas des bons juifs, limite, pas de juifs du tout, en fait. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. Et puis ensuite, au chapitre 9, il commence à faire son périple pour descendre à Jérusalem. Et il descend au-dessous de la Galilée, il y a la Samarie. Et la Samarie, c'est ceux qui détestent ceux du sud de la Judée. Donc c'est encore des pays qui sont pas trop top. Et c'est quand il était en Samarie qu'il a rassemblé ses 12 là, et puis qu'il leur a donné son esprit pour qu'ils puissent aller annoncer l'évangile et qu'ils puissent guérir les malades et chasser les démons et tout ça. Et puis on avait vu que les disciples avaient pas trop bien compris qu'est-ce que c'était que le royaume, et que avec cette puissance de l'esprit, ils voulaient cramer des villages, puis qu'ils voulaient garder le pouvoir pour eux-mêmes, et que ils étaient pas très top. Et puis ensuite, dimanche dernier, on avait vu que suivre Jésus, ça implique des choses, que pour aller annoncer le royaume, être porteur du royaume, il faut quitter sa culture, en tout cas accepter de la perdre, ou en tout cas ne plus qu'elle soit le lieu de ma sécurité. Il faut quitter son confort matériel, ou en tout cas être prêt à le perdre, ou en tout cas ne plus considérer que c'est là que se trouve ma sécurité. Et pareil avec sa famille. Trois lieux de sécurité fondamentaux qui sont appelés à être déplacés en Christ. Et là, au chapitre 10, c'est pas 12 disciples que Jésus envoie, mais c'est 72 disciples qu'il va envoyer devant lui vers toutes les villes par où ils doivent passer. Je lis. Chapitre 10, versets 1 à 20. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En route !»« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord la paix sur cette maison. Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison à une autre. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera, guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le règne de Dieu est tout proche. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le règne de Dieu est tout proche de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Ah, quel malheur pour toi, Chorazine! Quel malheur pour toi, Bethsaida! C'est des noms de villes. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr ou à Sidon, il y a bien longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et auraient changé de vie. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Là, tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie à dire, « Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Ah, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair sur la terre. » Écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, ce n'est plus 12 disciples, mais 72 disciples que Christ envoie devant lui pour annoncer le royaume de Dieu. Il y a tant de villes, tant de villages à voir, il faut aller partout. Peut-être vous vous demandez pourquoi 72 ? Bon, et celui qui vous reçoit, me reçoit moi. 4 points. On l'avait déjà vu, il avait annoncé une rupture dans la culture. Souvenez-vous, on a considéré que Christ quitte son royaume pour venir chez nous. Dans son royaume, la justice, la vérité, la bonté, la fidélité, la loyauté sont monnaie courante. En fait, c'est même pas monnaie courante, c'est la norme. En fait, c'est même pas la norme, c'est la seule chose qui existe. Alors que nous n'avons pas le droit de rendre le mal pour le mal. Nous sommes armés de prière, de parole, de vérité, d'actes d'amour, de générosité, armé de partage, armé de pardon, face à des nations qui peuvent faire tout autant preuve de générosité et de bonté que de cruauté. Jésus envoie donc ses disciples comme des brebis parmi les loups. Pour être disciples de Jésus, il faut accepter que l'Esprit nous montre la gloire qu'il y a à rester doux, comme une brebis. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. On avait vu, hein, il y avait un gars qui avait dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Logé, blanchi. Il les invite à regarder cette providence qu'ils reçoivent comme leur salaire. Implicitement, les disciples ne peuvent rien exiger ou demander. Ils vivront de la grâce de Dieu que Dieu inspirera aux gens qui croiseront sur leur route. Franchement, quelle foi formidable ils devaient vivre. Quelle preuve quotidienne il devait ressentir d'être sous le regard attentif de Dieu qui prenait soin. Mais moi, je veux admettre que quand je cherche ce regard de Dieu, c'est quand toutes mes forces et tous les systèmes de sécurité que j'ai érigés sont en échec et que je me sens incapable d'être protégé par mes solutions. Alors seulement, en désespoir de cause, je me tourne vers lui. Que Dieu prenne pitié et augmente ma foi. Alors, comme des brebis, les bourses, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Le Christ les exhorte ensuite à ne pas s'arrêter ici ou là pour saluer la famille, le cousin, le grand-oncle. Ils sont en mission pour le Seigneur et doivent reconnaître la priorité de cette vocation. Christ également abandonne sa famille pour faire de nous ses frères et sœurs par adoption. Certes, sa famille d'origine à lui est ravie de nous accueillir en son sein. Nous, parfois, avons des familles humaines qui peuvent avoir moins d'enthousiasme envers l'Évangile. Mais les disciples ne sont pas autorisés, entre guillemets, à aller chercher le confort de « Ah ben tiens, on passe par telle ville, plutôt que de dormir chez un inconnu et de manger ce qu'on donnera à manger, on va aller passer chez ma tante ou on va aller passer chez mon cousin et puis on va passer un bon moment et se reposer. » Quatrième point. « Celui qui vous accueille, m'accueille moi. » Mon ami Grégory avait prêché sur cet enfant que Christ avait présenté au milieu des disciples en disant « Celui qui m'accueille, enfin qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. » Accueillir Dieu est aussi simple que d'accueillir un enfant, mais ça se rate aussi facilement. Celui qui accueille les disciples accueille Jésus, celui qui accueille Jésus accueille Dieu le Père qui l'envoie. Je ne développe pas ce point parce que nous reviendrons dessus. Enfin, donc on a vu ces quatre points, à la fin du texte, Luc nous rapporte une petite leçon, comme après l'envoi des 12 disciples. Vous savez, les 12 disciples qui n'étaient pas des experts en sagesse, qui voulaient utiliser les pouvoirs des cieux pour détruire et pour dominer. Mais là, les 72 reviennent et ils sont extatiques. Même les esprits impurs nous obéissent. Et je veux bien croire que je serais tout impressionné de vivre cela. Mais Jésus les recadre doucement et clairement en disant « Vous avez autorité sur les démons parce que votre nom est inscrit dans le registre céleste, parce que vous êtes invités aux noces de l'agneau, parce que vous êtes des citoyens de la Jérusalem céleste, parce que vous êtes des membres de la famille de Dieu. » Alors évidemment que les démons vous sont soumis, comment ne le seraient-ils pas? Mais le vrai miracle, est-il que ces démons vous obéissent ou que vous soyez devenus enfants de Dieu? Imaginez un jour, vous êtes convoqué chez un prestigieux notaire de Paris, sans savoir pourquoi. Une fois dans le luxueux bureau, celui-ci déroule un testament qui révèle à la lecture que vous avez été nommé héritier, désigné héritier d'un multimilliardaire sans enfant et célibataire, qui vous a choisi et désigné comme unique dépositaire de sa fortune. Vous pouvez maintenant acheter un immeuble qui vous plaît en passant 3 coups de fil. Mais si nous prenons 2 secondes de réflexion, le plus incroyable, c'est quoi? De pouvoir acheter l'immeuble ou d'être devenu milliardaire sans raison? Quel est le plus fou? Et les disciples qui reviennent à Jésus et qui disent « Ah, les démons nous sont soumis », ils regardent à la conséquence, ils s'émerveillent de la conséquence plutôt que de s'émerveiller de la source de la conséquence. On est dans le royaume. Donc on est effectivement des membres du royaume, puisque quand on arrive, les ténèbres reculent. L'homme regarde ce qui frappe la vue. Parce que le piège qui guette les disciples est de continuer de croire qu'ils ont reçu ces choses par mérite. Regarde ce que je peux faire, c'est donc que je suis quelqu'un d'eux. Et non. C'est pour cela que le Seigneur veille à recentrer leur regard intérieur sur ce qui est premier. Dieu vous aime. Dieu vous a choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit pour sa gloire. Quelle grâce, quel honneur, quel miracle. Et pourtant, moi qui vous prêche cela, je sais bien qu'au fond de moi, je n'ai compris que intellectuellement, mais que je resterai certainement plus impressionné par le miracle que par le fait que je sois enfant de Dieu. Mais je veux revenir sur ce que je crois être au cœur du passage. C'est l'accueil de ces 72 disciples dans les villes. Quelque chose d'énorme est en train de se produire. Le règne des cieux s'approche, un règne qui libère du péché, un règne qui libère de l'angoisse, de la mort, un règne de justice, un règne d'abondance, un royaume éternel qui ne passera jamais, stabilité, prospérité, amour, fraternité. Quelque chose d'énorme. Et notre Dieu, par Jésus-Christ, équipe 72 ouvriers pour annoncer cette grande nouvelle. Et de quoi les équipe-t-il? De quoi les équipe-t-il? De faiblesse, de vulnérabilité, de dépendance, de rupture avec la sécurité. Il les propulse loin de leur zone de confort, sans même les envoyer à l'autre bout du monde. Hein. Des ouvriers dont j'ai envie de dire, ils sont à la merci du monde. Et pourtant, ils sont investis, remplis d'une grande puissance. Ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils font des miracles pour attester, démontrer que oui, ils ont envoyé pour annoncer le règne des cieux et que c'est pas du blabla, que oui, ce règne est plus puissant que le règne du mal. Jésus a même raconté qu'il a vu Satan tomber du ciel comme la foudre, alors que les disciples étaient en train d'opérer cette reconquête du pays, qu'ils ouvraient une brèche dans le royaume infernal. Tu veux bosser, mais tu peux pas ignorer ce qui se passe tellement il y a du bruit. On va envoyer deux gus, sans fric, sans vêtements propres, complètement dépendants. C'est quoi l'histoire ? Une cohorte d'ambassadeurs revêtus de façon splendide qui arrivent aux portes d'une ville. Nous avons un message, notre empereur a délivré. Tu vois, bon, ben, tu hésites avant de les foutre à la porte. Peut-être ça va avoir des conséquences. Tu vois, je sais pas, il a l'air de bosser pour un mec important. Je vais peut-être me mettre quelqu'un à dos si je lui claque la porte au nez. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Le créateur des mondes visibles, invisibles, le maître du cosmos. Pourquoi il choisit une bande d'ambassadeurs amateurs, sans expérience? Ils ont adhéré au mouvement il y a 2 mois, les mecs. Et il leur met un cahier des charges à base de pauvreté, de dépendance, de vulnérabilité. Pourquoi rendre son message si facile à rejeter, si facile à mépriser? Quel est le truc qu'il poursuit en habillant de la sorte ce royaume pourtant si riche, si prospère et si puissant? Je veux dire, c'est les ambassadeurs du règne éternel qui, une fois qu'il sera établi sur la terre, il n'y aura plus rien d'autre qui va changer après. D'accord? Nous, on a vu l'Empire romain, l'Empire d'Alexandre le Grand, puis hein, des grands empires, puis ensuite ils se sont effondrés, puis des nouveaux empires se sont bâtis. Là, et on va à Nîmes, on a encore les vestiges de l'Empire romain qui ont des siècles. Ah, c'est dans l'histoire, dans les siècles. Mais quand le royaume de Dieu va arriver, c'est fini. Il n'y aura plus rien d'autre après. Donc c'est plus puissant que tout. Pourquoi? Un message si facile à rejeter. Imaginez, dire à quelqu'un, que vous ne connaissez pas. Bonjour, je ne te connais pas, mais celui que je sers te connaît. Il m'a chargé de te dire qu'il t'aime et veut se réconcilier avec toi. C'est Dieu, le créateur du monde, l'auteur de la vie, de ta vie. Il va restaurer le monde tel qu'il aurait toujours dû être, sans haine, sans malheur, sans mort, sans violence, sans mensonge. Avant de revenir sur la terre, il nous a chargé d'annoncer son retour et son pardon, pour que le plus grand nombre échappe au jugement qui va avoir lieu sur le monde. Mais moi aussi, j'ai pratiqué le mal, pour être franc, je le pratique encore, car j'arrive pas à m'en libérer complètement. Mais Dieu m'a accordé une réconciliation parfaite. Il m'a même adopté d'une certaine manière. J'ai vraiment hâte qu'il revienne. Et tu es invité, toi, à le rencontrer et à faire partie de ceux qui attendent son retour. Tout ce que je viens de dire est vrai. Et ces mots que je viens de vous dire cachent une gloire, une puissance, une libération qu'on peut pas décrire, qu'on comprend même pas complètement, qui dépasse mes espérances les plus folles. Alors pourquoi je ressens cette faiblesse dans le discours? Un message, il suffit de faire. Et on doit se l'affirmer. Puis on est ridicule. Et on est rejeté. C'est quoi le deal? Pourquoi tant de faiblesse dans ton évangile qui ressuscite un mort? Qu'est-ce qu'il faut en tirer pour nous? Clairement, déjà, être un disciple, c'est renoncer à contrôler le fruit. Le fruit vient de lui, pas de nous, mais par nous. Il faut être fidèle et courageux à la fois. Courageux de foi. Le reste vient de Dieu. Cette faiblesse, c'est le passage rêvé pour Dieu de manifester sa gloire. Cette vulnérabilité, c'est la garantie que tout ce qui va advenir d'incroyable viendra de lui. Mais comme c'est coûteux pour nous, comme nous peinons à voir le courage dans cette résolution d'aller dans l'inconfort, dans le désagréable, dans le troublant, dans ce qui malmène notre ego. Ouf, mais toujours garder à l'esprit qu'il faut pas le faire parce que ah ça marche mieux, c'est performant. Il faut pas le faire parce que ça fera de moi quelqu'un de meilleur. Il faut pas le faire pour ah comme ça je pourrais obtenir de Dieu. Parce que c'est vrai. Par la foi. Qu'est-ce que j'entends par là? Quelqu'un de cher me parlait l'autre jour de sa sœur qu'elle n'a pas revue depuis plus de 15 ans, puis ensuite elles ont parvenu à reprendre contact par texto, par téléphone, à boire même une bière ou deux. Mais souvent, cette personne se retrouve face à un silence radio, à renvoyer des messages qui n'ont pas de réponse ou des réponses lapidaires. Je vais bien, merci, j'espère que toi aussi, bisous. Et elle me disait, pour ne pas céder au découragement, pour ne pas laisser l'amertume monter en moi, il ne faut pas que je regarde aux fruits que j'espère, mais à Jésus, face à moi. Et dans ce face-à-face intime avec lui, il me donne cette conviction que ce que je fais est juste et bon. Et ça suffit. Jésus me garde persévérant. This is the way, telle est la voie. Nous sommes invités à vivre comme des brebis parmi les loups, à placer notre espérance en Dieu plutôt qu'en notre famille, notre richesse ou encore notre société. Nous sommes appelés à accueillir la vulnérabilité et la dépendance comme étant le chemin des pèlerins que nous sommes. Ça, c'est pour nous. C'est déjà dur, hein. Mais une chose, quand même, formidable, de la part de Dieu. Parce que nous, on n'est pas content que le message, il soit si facile à rejeter. D'accord? Pourquoi on n'est pas content? Parce que les messagers, c'est nous. Hein? Mais si les messagers sont si faciles à renvoyer, l'inverse est vrai aussi. Les messagers sont si faciles à accueillir. Ils dorment là où vous leur dites de dormir. Ils mangent de ce que vous leur donnez à manger. Ils restent le temps où vous voulez qu'ils restent. Mais ce qu'ils veulent vous apporter n'a pas de prix. Il faut considérer le Dieu de l'univers ici une fois encore. Un Dieu qui veut sauver le monde. Un Dieu humble qui se rend plus que accessible, un Dieu doux qui ne s'impose à personne, un Dieu qui aime et qui considère chacun comme responsable. Imaginez un ambassadeur, voilà, je sais pas, l'ambassadeur des États-Unis qui veut venir voir Vladimir Poutine. Il va sortir sur sa table ses porte-avions, il va sortir sur les têtes nucléaires, il va sortir, tu vois, sa puissance économique et machin, tout son arsenal pour supporter la pression de sa parole diplomatique face au président russe. Bon, le président russe, le diplomate russe ferait l'inverse, hein, je choisis pas un camp. Mais voilà, je viens négocier la paix. Écoute mes paroles. Dieu, qui est celui qui est lésé dans l'affaire, hein, parce que c'est lui qui a été trahi, qui a été rejeté par les hommes, qui a été manipulé, enfin, dont on sait, les hommes se sont servis, ont souillé le nom. Il vient à la table des négociations en envoyant des ambassadeurs les plus dépouillés qui soient. Il dit, ça c'est la gloire. Un messager que tu peux rejeter comme ça, c'est un messager qui peut être accueilli n'importe où. C'est un messager qui est trop facile de l'accueillir. Il arrive chez toi, t'as quoi? Ah ben j'ai rien. J'ai juste une baguette et des rillettes. Ça passe. Vas-y, on s'assoit. On va discuter. Vous voyez l'image? Est-ce que vous sentez la douceur, l'humilité d'un Dieu qui se prépare tellement à ce que son message soit rejeté? Jésus qui pleure, qui se désole des villes qui ont méprisé son message de salut. Lui qui l'a rendu le plus simple, le plus facile possible à voir, à recevoir. Et il pleure sur ces villes. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour vous? Qu'est-ce que vous avez rejeté là? Vous en vous rendez même pas compte. Quelle grandeur de ce Dieu là! Vous sentez là ce renversement encore des valeurs? Les choses les plus importantes confiées à des gens les plus ordinaires, où ce qui est sans prix est annoncé sans faire une bonne campagne de com, de pub, mais juste sans prétention. Ces messagers trouveront-ils des hôtes pour accueillir la merveilleuse nouvelle qu'ils ont à nous délivrer? Je termine juste en lisant les versets qui sont juste après, dans l'évangile de Luc. J'ai lu versets 1 à 20. Là, je vous lis la suite, les versets 21 à 25. Vous allez voir comme ça fait écho. Donc il y a ces 72 qui reviennent, là ils sont tout joy, tout feu, tout flamme. Jésus les recentre un peu. Mais voilà, il s'est passé que des gens aussi simples et ordinaires que vous et moi sont allés annoncer le royaume et ont vu des trucs incroyables. Jésus dit ceci, enfin, la Bible dit ceci, verset 21. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par l'Esprit Saint et s'écria. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Il se tourne vers les disciples. Mon Père m'a remis toute chose. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes, de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Amen.